tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a des élections, un président qui semble raciste et un franco-américain qui ne reconnaît plus son pays et retourne à Atlanta pour voir où en sont les relations entre noirs et blancs dans un contexte brûlant de violences policières. Alors pour commencer, les personnages. Une prof de droit dans son quartier, une chercheuse de la blanchité, un vieux copain qui a changé, une chercheuse de la fragilité, un cinéaste qui regarde sa ville, un couple qui a adopté et un croyant lucide. Ensuite, le décor. La Géorgie, des manifestations, des privilèges, des désillusions, des country clubs, des quartiers gentrifiés, des familles sur les porches et une église. Aujourd'hui, deuxième épisode, un poisson dans un aquarium.
For me, white privilege is the water that the goldfish is swimming in.
Pour moi, le privilège blanc, c'est l'eau dans laquelle nage le poisson rouge. Il tire sa subsistance de cette eau. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Et ce n'est pas quelque chose dont il est nécessairement conscient. Et le privilège blanc, c'est ça, aux États-Unis, tout du moins.
White, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. J'avais rendez-vous avec Tania Washington, qui est professeure de droit, le jour de son 50e anniversaire à 8h30 du matin. Je me sentais un peu coupable, alors je lui ai apporté des croissants et des espressos du café du coin. Un beau café. Son quartier de People's Town à Atlanta a bien changé. Quand on le traversait en voiture avec mon grand-père quand j'étais petit, il verrouillait les portes et me demandait de remonter les vitres. J'observais les noirs sur les porches de leur maison, encombrés de vieux matelas humides. Il y avait des adolescentes déjà enceintes dans la rue, des nids de poules sur la chaussée et des câbles électriques qui pendaient un peu partout.
Je ne peux pas dire qu'il n'y a eu aucun progrès, car je suis la preuve vivante qu'il y a eu des avancées. Je suis née en 1970 et grâce aux efforts des autres avant moi, j'ai pu intégrer des écoles blanches tout au long de mon éducation, jusqu'à mon master à Harvard. Donc il y a des progrès pour des particuliers. Ce qui n'a pas changé, c'est la structure et les systèmes qui soutiennent la suprématie blanche et les hiérarchies qui reposent sur la race. Tant que ces structures demeurent en place, vous aurez bien sûr quelques personnes qui réussiront à creuser leurs trous malgré l'environnement dominé par la race, mais il y aura toujours des inégalités. Il y aura toujours un nombre disproportionné d'hommes et de femmes noires en prison, des gens moins éduqués, des gens qui ne trouvent pas d'emploi. Tant que la structure continue à produire ces réalités raciales, le fait que quelques personnes réussissent n'apaisera pas les remous que la majorité doit affronter. Si vous faites un tour dans le quartier, vous verrez de nombreuses pancartes Black Lives Matter, les vies noires comptent, et des pancartes sur le gazon avec des citations de Martin Luther King. Et je ne doute pas de la sincérité des gens qui ont mis ces pancartes devant chez eux. La plupart des gens qui s'installent dans le quartier sont blancs. Je dirais, la plupart se considèrent comme progressistes, politiquement. Vous savez, il y a eu de nombreuses manifestations ces derniers mois à Atlanta, car ça fait longtemps que nous avons des problèmes avec la police d'Atlanta. Donc il y a eu une forte réaction à la mort de George Floyd, car sa mort nous a rappelé tous les Noirs qui sont morts entre les mains de la police ici. Et ensuite, Rayshard Brooks a été tué par la police d'Atlanta. 3 semaines après le meurtre de George Floyd, à moins de 2 kilomètres d'ici, au fast-food Wendy's. Et donc, il y a eu des manifestations pour dénoncer ce meurtre.
Et après la manifestation, est-ce qu'il y a eu une réflexion de la part des Blancs, un dialogue avec les Blancs sur les moyens de lutter efficacement contre, non seulement contre la violence policière, mais aussi pour plus d'égalité entre les Noirs et les Blancs, plus de justice?
So after the protests, you know, I mean, I think people are in a state of reflection.
Après les manifestations, je crois que les gens sont entrés dans une phase de réflexion. Ils y sont encore, car on ne peut pas revenir en arrière avec la pandémie. Parce que d'habitude, ça revient vite à la normale. Les gens parlent de période de soulèvement et la tension retombe. Et on revient au statu quo. Là, on ne peut pas revenir au statu quo avec la pandémie. Nous sommes plus chez nous, nous sommes exposés à la violence qui est diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Nous sommes une audience captive de ces incidents raciaux et de cette brutalité raciale. Et nous ne pouvons pas retourner à notre lieu de travail et aux autres lieux qui d'habitude font distraction et nous éloignent de cette réalité qui domine les États-Unis depuis 400 ans, depuis le début. Ceci n'est pas nouveau, ça remonte à la surface. Et puisque l'on ne peut pas revenir en arrière, les gens doivent réfléchir à la façon dont ils vont répondre au racisme. Parce qu'on peut soit pratiquer le racisme, soit lutter contre le racisme. On ne peut pas rester au milieu. Et la plupart de mes voisins sont des gens bien et décents, qui n'accepte pas que l'on appuie un genou sur quelqu'un jusqu'à le tuer. La question est, de quelle manière pratiquons-nous le racisme par le biais d'actions moins violentes, mais qui renforcent néanmoins la suprématie blanche? Quand on embauche des gens, quand nous évaluons les gens, quand nous échangeons avec les gens, sommes-nous violents lors de ces échanges? Sommes-nous racistes? Le privilège blanc est puissant. La question est, quel usage allez-vous en faire?
L'universitaire Nell Irvin Painter, professeur à Princeton, est noire elle aussi. Dans son livre « L'histoire des Blancs », un ouvrage de référence sur ce qu'on appelle la blanchité en sciences sociales, elle se penche sur la construction de la notion de race blanche à travers les siècles, et Painter suit de très près ce qui se passe aujourd'hui.
You know, whiteness is changing. I mean, it's always changing. That's the point. It's always changing. But it's really changing fast now.
La blanchité évolue. La blanchité évolue tout le temps, mais elle évolue en profondeur et à grande vitesse en ce moment. Depuis les manifestations Black Lives Matter, après George Floyd en juin, la question « que veut dire être blanc ?» prend des proportions énormes. On le remarque dans le monde de l'édition. Les ouvrages sur l'antiracisme et sur la signification de la blanchité sont des best-sellers. Un grand nombre de gens réfléchissent à la question, échangent, et de toute évidence, ils ne veulent plus être blancs selon leurs anciens critères. Avant juin, la façon la plus répandue d'être blanc, c'était de se considérer comme dénué d'identité raciale. Vous étiez un individu. L'autre façon de se voir en tant que blanc était d'être un nationaliste blanc et d'avoir des interprétations à des degrés divers de la fierté blanche. Mais après juin, les gens se sont dit, oula, je dois prendre position en tant que blanc. Et l'on assiste maintenant à une forte poussée de l'identité blanche antiraciste.
Nell Irvin Painter est née en 1942. Elle a enseigné dans de nombreuses universités aux quatre coins des États-Unis.
Je suis une personne âgée. J'ai passé ma vie à observer le mouvement des droits civiques durant les années 50, 60, 70 et 80. J'ai vécu aussi la riposte à ces mouvements. Je ne suis pas mal à l'aise avec le terme de privilège blanc. Parce que ce qui est au cœur de l'identité blanche aux États-Unis, c'est l'invisibilité raciale. Si vous êtes blanc, vous n'êtes pas quelqu'un qui a une race. Vous êtes un individu. Et cela fait partie de l'idéologie de la race, de l'idéologie de la blanchité aux États-Unis. Les Blancs ont ce que j'appelle le luxe de naviguer dans la vie comme s'ils n'avaient pas d'identité raciale. Comme le disent les Black Panthers, si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Je partage ce postulat. En revanche, je suis moins catégorique que d'autres, car je pense qu'il y a de nombreuses façons différentes de faire partie de la solution ou de faire partie du problème. Dans la vie quotidienne, il y a des gradations, et avec mon expérience, qui couvre plusieurs décennies, j'ai tendance à croire que me contraindre à prendre une décision est contre-productif.
Nell Irvin Painter fait partie des 150 intellectuels et écrivains à avoir signé une tribune pour dénoncer les interdits que les mouvements antiracistes font peser, selon eux, dans le débat public. Elliot Montgomery, en attendant, est surtout indigné par la vulnérabilité des Noirs dans la rue. Il distribuait des rations de nourriture aux démunis pour le compte de son église quand je l'ai rencontré sur un parking sinistre de Stone Mountain. C'était le lendemain de l'affaire Jacob Blake, l'homme noir de 29 ans qui s'est fait tirer dessus dans le dos 7 fois par un policier blanc à Kenosha, dans le Wisconsin. Qui a tiré sur Jacob Blake ? Un homme blanc ou l'institution de la police ? Qui a tué George Floyd, Richard Brooks, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin ? Des individus blancs ou le système ?
La question est, quand est-ce qu'on apprendra quelque chose ? Il faut qu'il se passe quoi au juste ? Quoi ? Quand on parle du privilège blanc, des Noirs qui sont brutalisés et qui ont peur d'être au volant le soir quand ils voient les flics, tout ça, face à cette peur, c'est notre identité. C'est notre histoire. Donc ce n'est pas nouveau du tout, ça ne peut pas être nouveau. Et c'est l'héritage de l'esclavage. L'esclavage a accordé à un groupe le droit de se sentir supérieur à un autre groupe. Et quand tu autorises ce groupe à s'émanciper et à faire autre chose, il y a des gens avec des privilèges qui pensent que ce n'est pas normal. Black Lives Matter. Nous, on a toujours pensé que les vies noires comptaient. Mais alors, maintenant, c'est cool de le penser. Donc, les médias s'en emparent, ça leur fait de l'audience, ils vont gagner de l'argent. Donc, oui, aujourd'hui, c'est plus facile de dire Black Lives Matter.
Elliot Montgomery est auxiliaire pour un enfant handicapé dans une école et il est assez observateur. Avant de le rejoindre, j'avais passé 10 minutes à faire des allers-retours sous la pluie battante entre le coffre de ma voiture et l'habitacle pour retrouver ma clé de contact et je devenais dingue.
Listen, we can speak up as much as we want. Speaking is nothing.
On peut donner de la voix tant qu'on veut, mais parler c'est rien. C'est facile de dire oui, ce n'est pas juste, mais agir pour que ça change, c'est autre chose. Le problème entre les Noirs et la police est qu'ils ne savent même pas qui nous sommes. Ils ne nous connaissent pas.
Vous avez votre perception de qui.
Toi, tu as une perception des Noirs et tu n'es pas une exception. Tout à l'heure, quand tu cherchais tes clés dans la voiture, si 3 Noirs s'étaient ramenés, tu aurais eu peur à cause de la perception qu'ont les Blancs vis-à-vis des Noirs. Ils ont leur idée sur qui nous sommes et la seule façon de changer les préjugés, c'est de commencer à connaître les autres. Parce que quand je t'ai vu et que tu cherchais tes clés, je savais que tu allais nous parler de quelque chose, je ne savais pas de quoi, c'est tout. Parce que les Blancs ne débarquent pas comme ça dans ce parking sans raison. Enfin, j'espérais que tu n'avais pas de problème, c'est tout. Mais si 3 Noirs t'avaient approché et demandé « qu'est-ce que tu cherches ?» Tu aurais eu peur. Tu aurais dit non, rien, rien, et tu serais rentré dans ta voiture et tu aurais fermé la porte. La perception qu'ont les gens des Noirs doit changer. Et c'est la seule chose qui permettra aux choses de changer, la perception. Écoute, nous sommes qui nous sommes. Et j'ai travaillé pour un homme raciste il y a longtemps. Je m'occupais des chevaux, je montais à cheval, je les brossais, je nettoyais les écuries, je les nourrissais. J'ai appris le métier et cet homme me l'a appris. Il m'a beaucoup appris, beaucoup. Il croyait que tous les Noirs étaient mauvais. Il disait toujours, faut les garder à l'œil et d'autres trucs. Mais c'était un homme bien. Et je le redis, c'était un homme bien. Parce qu'aucun Noir ne m'a appris ce qu'il m'a appris. Mais il avait ce préjugé sur les Noirs. Et moi, je croyais autre chose. Je lui ai dit, les gens ne sont pas comme tu crois. Tu as des Noirs qui sont bons, tu as des Blancs qui sont bons. Tu as aussi des Noirs qui ont du mal, qui ont des problèmes, qui font qu'ils agissent de telle ou telle manière. Et même chose pour certains Blancs. Mais bon, moi, j'étais gamin, j'adorais les chevaux. On était pauvres, et ce boulot, c'était une façon pour mes parents d'être sûrs que je reste dans le droit chemin. Donc, ils me déposaient à sa ferme. Mais bon, au bout d'un certain temps, mes parents se sont séparés, et ma mère a décidé qu'elle ne pouvait plus me déposer chez ce monsieur. Eh bien, il est venu me chercher. Tous les jours. Il venait me prendre chez moi après l'école et me ramenait à la maison. Tous les jours, du lundi au dimanche. Il a fait ça tous les jours. Et le truc dingue, c'est que ma mère m'a dit, tu sais, il ne croit pas que tu es noir. Il pense que tu n'es pas noir. C'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai dit à ma mère, mais si. Et elle m'a dit non. Cet homme, il était là pour moi quand mon père est parti. Et il est tombé malade quand je me suis marié. J'étais encore assez jeune. Et il était dans une institution. Et j'y suis allé. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, « Quel patient, venez-vous voir ?» Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, « Non, on ne vous croit pas. » Ils m'ont demandé quel lien nous avions. Je leur ai dit, « C'est mon père. » Ils ont dit, « Mais non. » Enfin bon. Mais j'ai quand même pu aller à la section psychiatrique où ils se trouvaient. Et les gens me regardaient comme si j'étais fou. Là encore, j'ai dû sonner car c'était fermé. Ils m'ont demandé « Qui venez-vous voir ?» J'ai répondu. Et ils m'ont dit « Non, vous devez vous tromper. » Mais ils ont ouvert la porte, il m'a vu, et il a dit « Elliot Montgomery, tu es venu me chercher. »
J'ai roulé 60 km vers le sud pour retrouver mon vieux copain, John Mumper. Il a 3 ans de plus que moi. Adolescent, il me trimballait dans sa voiture de sport japonaise et nous écoutions du mauvais hard rock FM à plein tube. J'avais accompagné plusieurs fois John au lycée. Il finissait les cours dès 13h et travaillait tous les après-midi à la chaîne de glaciers Dairy Queen pour économiser pour sa voiture. John habite une maison de 800 mètres carrés, qui est une caricature de la démesure américaine. Avec un peu de fébrilité, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la notion de privilège blanc.
You know, that is one of those things to where, if you would have asked me this, you know, 4 months ago, 5 months ago, I would have said that I do not believe that there's any.
Tu sais, c'est le genre de truc. Si tu m'avais posé la même question il y a 4 ou 5 mois, je t'aurais dit, non, je pense pas qu'il y ait des privilèges blancs. Je t'aurais même sans doute soutenu le contraire, car en réalité, j'ai parfois l'impression que la minorité a plus d'opportunités que moi. Mais avec tout ce qui se passe, j'ai commencé à apprendre, à découvrir que les gens de couleur sont souvent préoccupés par ce que les autres pensent d'eux. Par exemple, j'ai une histoire. Il y avait un homme noir qui sortait avec une femme blanche et ils quittaient un restaurant. Ils étaient en chemin vers leur voiture. Et là, il s'est mis à tomber des cordes. Et la femme a commencé à courir vers la voiture pour éviter d'être trempée. Et son petit ami noir lui a dit, écoute, ne refais plus jamais ça. Elle a dit, mais pourquoi ? Et il lui a répondu, parce que les gens autour vont penser que je te pourchasse, qu'il se passe quelque chose de grave et que tu tentes de t'échapper. Et cette histoire m'a travaillé, je me suis dit, waouh, je n'avais jamais imaginé que ces gens devaient anticiper et endurer ce type de choses.
Et
donc quand tu réalises qu'ils doivent affronter ça, alors que toi ça ne te serait jamais venu à l'esprit, tout à coup, un voyant dans ton cerveau s'allume et tu te dis, la vache, c'est un vrai problème en fait. Parce que dans mon monde, il n'est pas question de race, mais pour d'autres, ça n'est pas le cas. J'en suis pas du tout conscient, je suis protégé de plein de façons. Moi, je vis dans le Sud. Les Noirs et les Blancs ont grandi ensemble ici, des Noirs. On en compte parmi nos meilleurs amis, on ne pense même pas à la couleur de la peau. Mais j'ai une autre histoire personnelle qui, après coup, m'a révélé mon propre racisme. Écoute-la, elle est pas mal. On a une babysitter pour notre fils Colin depuis qu'il a moins d'un an. Elle est noire. Moi, je la connaissais pas, ma femme, oui, elle lui faisait confiance et elle l'aimait bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, la fille fait partie de notre famille. Mais je me souviens de la toute première fois où ma femme et moi, on est sortis tard le soir et où notre fils a passé la nuit chez cette femme. Et cette nuit, moi, j'ai très mal dormi. Alors, on est rentré à 2h du mat, et je me suis réveillé à 7h. Et là, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'aille chercher notre gamin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis allé chez elle. Il était 7h ce dimanche matin. La porte s'ouvre et là, je vois ce petit bout de chou blanc avec sa couche et sa sucette dans sa bouche. Et cette grosse femme noire tout sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je suis venu? Et là, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, mais...
You dumbass.
Pourquoi ai-je eu peur?
There's nothing wrong with her.
Elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit,
you've known her for how long?
Tripidio, t'as rien à craindre d'elle. Tu la connais depuis combien de temps?
So that's what I learned at that point.
Colin peut rester chez elle. Retourne te coucher.
Why? If she was white, would I have had that thought? Probably not.
Et là, j'ai compris à ce moment précis que j'avais eu une pensée raciste. Si elle avait été blanche, est-ce que j'aurais été inquiet? Probablement pas. Je crois qu'il faut qu'on admette tous que le racisme est là. Tu peux l'appeler le privilège blanc ou autre chose, mais il faut que ça cesse. Il faut que ça disparaisse. Et il va nous falloir de bons dirigeants qui déclarent « Nous allons y mettre fin, nous allons nous respecter les uns les autres ». Je pense que Donald Trump jette de l'huile sur le feu avec ses tweets, oui. Et c'est bizarre parce que quand je réfléchis à où je me situe politiquement, je pense surtout à la finance, à la fiscalité. Les problèmes sociaux passent au deuxième plan. Moi, je veux parler de fiscalité parce que c'est l'argent qui m'intéresse. Peut-être que c'est un peu égoïste de ma part, mais c'est la vérité. Je ne veux pas avoir à me soucier des problèmes sociaux. Je veux qu'ils soient réglés, qu'ils disparaissent et ne plus avoir à y penser.
Est-ce pas un peu ça, justement, le privilège blanc, de pouvoir dire que les tensions raciales ne sont pas une priorité parce que je n'en souffre pas en tant que blanc, donc l'argent est plus important? C'est pas une forme de privilège blanc, ça?
Tu peux le tourner comme ça si tu veux, mais moi je vois les choses autrement. Et si je voulais, je pourrais d'ailleurs tourner les choses dans l'autre sens. Et tu sais quoi, nous, on n'a pas les fonds de l'Union des Noirs pour l'éducation des Blancs. Il y a un fonds qui porte ce nom et qui aide financièrement les Noirs pour aller à l'université. Je trouve ça super, hein, mais il n'y a pas ça pour les Blancs. Eux, ils ont Black Lives Matter, mais t'imagines ce qui se passerait si moi je portais un t-shirt qui disait « Les vies blanches comptent » parce qu'il y a du racisme qui vient de l'autre côté aussi. Donc ça aussi, il faut que ça disparaisse.
Après l'interview, on est allé dans un pub, car John voulait regarder la course de voiture NASCAR des 500 miles de Daytona. Il a demandé à la serveuse noire de changer de chaîne. On a pris des nouvelles des uns des autres, ses parents ont divorcé, les miens aussi. Mais depuis l'interview, c'était un peu tendu entre John et moi. Ma question l'avait blessé, sa réponse m'avait déçu. La sociologue Robin DiAngelo a rencontré des milliers de gens comme John Mumper, mais aussi des citoyens démocrates lors des ateliers sur la diversité qu'elle anime en entreprise. Donald Trump a fait interdire ses stages dans les agences fédérales et leurs sous-traitants. Mais dans les 4 mois qui ont suivi la mort de George Floyd, D'Angelo a vendu 1 600 000 exemplaires de son livre « Fragilité blanche ».
J'ai choisi ce terme pour décrire les dynamiques que l'on retrouve systématiquement lorsque les Blancs se sentent mal à l'aise ou se sentent défiés par la notion de race. La fragilité vient souligner qu'il en faut très peu pour rendre les Blancs inconfortables. Le simple fait de suggérer que la blancheur a une signification peut les irriter. Nous préférons nous considérer individuellement comme des êtres uniques et nous ne voulons pas admettre que notre race a pu avoir un impact sur notre vie. Nous n'avons pas l'habitude d'être exposés en tant que blancs et nous n'avons pas l'habitude de voir des gens associer une signification à cette blancheur. Et donc, la référence à notre race est ressentie comme une rupture du contrat social. Elle vient insulter le sentiment que tout ce que l'on a accompli est le fruit de notre dur labeur et que l'on mérite ce que l'on a. Donc, suggérer que la blancheur détermine des résultats conduit à des réflexes défensifs.
Fragilité blanche a été louée et vilipendée. On lui reproche notamment de déplacer le débat sur le terrain des biais individuels plutôt que de se confronter aux structures qui donnent une assise au racisme. Des Blancs qui l'ont lu ont néanmoins eu envie de changer. Mais Fragilité blanche est un diagnostic et eux veulent des remèdes.
The first thing that I do when a white person asks me what do I do?
Lorsqu'une personne blanche me demande ce qu'elle doit faire, je lui réponds par une autre question. Je lui demande: comment as-tu fait pour ne pas être au courant? En 2020, l'information est partout. Les Noirs nous le disent depuis des décennies. En leur demandant cela, je défie leur soi-disant innocence. Peut-être qu'elles sont consciemment innocentes, mais j'ai tendance à croire qu'elles ont dû faire des efforts pour ne pas savoir. L'information est partout. Je veux que les gens examinent l'apathie qui leur a permis de ne pas se renseigner plus tôt. J'ai aussi envie de leur demander: qu'est-ce qui vous a conduit à me poser la question? Il vous a fallu regarder combien de vidéos de Noirs tués dans la rue avant de me poser cette question. Donc je commence comme ça, et ensuite je leur demande de noter leurs réponses sur une feuille. Ils écrivent: je n'ai pas été éduqué sur le racisme. Et je dis: d'accord, on sait y remédier. Elles disent: je ne parle pas de racisme avec les Blancs qui m'entourent. Je dis: prends ton courage à deux mains et lance-toi. Même les gens bien intentionnés ne parlent pas de racisme avec les autres Blancs, parce que c'est tellement frustrant. Nous sommes tellement sur la défensive, parce qu'il y a tellement de fragilité blanche. C'est tellement punitif pour tellement de personnes. Aussi, sur leur liste, il y a: je ne parle pas de racisme avec des gens de couleur. Et sur la ligne suivante, ils écrivent aussi: je ne connais pas de gens de couleur. Et il y a enfin: je ne veux pas me sentir coupable. Et si elles sont honnêtes, elles écrivent: le sujet ne m'intéressait pas. Ce sont des choses qui étaient pour la plupart sur ma propre liste quand j'ai commencé ce travail. Et il est possible de travailler sur tous ces points. Mais c'est un peu comme dire: je veux être en forme lundi. Tu ne seras pas en forme lundi. Tu peux commencer lundi. Et cela implique plusieurs choses: un régime, de l'exercice, le sommeil, la réduction du stress. Et ce n'est jamais acquis ad vitam aeternam. Il faut garder la forme. Donc, je ne veux pas décourager une personne blanche qui décide de faire ses achats dans des établissements tenus par des Noirs ou qui veut des réponses. C'est un bon début. Mais il faut être disposé à vraiment travailler. Et ce n'est ni confortable, ni facile.
Je rejette les arguments des plus grandes entreprises du monde. Elles sont capables de régler des problèmes incroyablement complexes mais elles disent que le recrutement des Noirs est un problème depuis des décennies et un défi impossible à relever. Ce n'est pas une priorité pour ces entreprises, c'est tout. Il faut qu'on ait une discussion honnête à ce sujet. Comment est-ce que tu peux avoir des réseaux logistiques d'une complexité sans pareil dans le monde et être démuni dès lors qu'il s'agit d'embaucher des citoyens dans la communauté? Je n'y crois pas une seconde.
Coca-Cola, CNN, Delta Airlines, Home Depot, UPS, de nombreux géants américains ont leur siège à Atlanta. Microsoft va créer 1500 emplois à quelques kilomètres du Gathering Spot, cofondé par Ryan Wilson, qui a 30 ans. The Gathering Spot est un incubateur, une sorte de WeWork pour les Noirs, de 2000 mètres carrés, avec un restaurant et un café baigné de lumière, une immense salle de projection, des bureaux, et à l'entrée, une œuvre d'art, un drapeau américain entièrement peint en noir.
I'm originally from Atlanta. Decided to go to Georgetown for undergrad, and then stayed to go to Georgetown.
Je suis originaire d'Atlanta.
Back at home.
J'ai décidé d'aller à Georgetown pour mon premier cycle, et j'y suis resté pour mes études de droit.
Same summer as the Trayvon Martin case, and I was watching that case all day.
Et un été, j'étais de retour à Atlanta pour un job dans un cabinet d'avocat. Et c'était l'été où Trayvon Martin a été tué.
In Florida.
Et je regardais ça à la télé toute la journée.
George Zimmerman, that
ce qui est arrivé à Trayvon a été amplement couvert dans les médias. Ça s'est passé en Floride. Il y avait un monsieur qui s'appelait George Zimmerman. Il a suivi Trayvon qui portait un sweatshirt à capuche. Ils ont eu une altercation et Zimmerman l'a tué. Trayvon était juste un gamin. Et j'ai été très affecté par cette histoire. C'est pour ce genre de choses que j'avais décidé de faire droit. À la fin de l'été, c'était en juillet 2013, George Zimmerman a été acquitté. Et j'ai reçu un email d'un ami qui m'a demandé « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ma réponse, en fait, c'était le concept du Gathering Spot. Nous, on se soucie peu de savoir si les Blancs vont venir à notre rescousse. Ce que l'on démontre ici chaque jour, c'est que les choses qui existent déjà au sein de notre communauté sont puissantes. Et qu'il nous faut simplement travailler ensemble. Alors, si des Blancs veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Mais on ne commence pas par se dire qu'on n'y arrivera pas sans les Blancs. La plupart du temps, quand on parle de la diversité, on parle en réalité d'assimilation au sein d'un environnement. Donc ici, tous les jours, je ne me soucie pas de ça. Il faut qu'on dépasse l'idée selon laquelle il y a des espaces neutres. Ici, pour être tout à fait transparent, je ne me focalise pas sur le bien-être des hommes blancs dans mon espace. Même si les Blancs sont bienvenus, nous avons des membres Blancs. Mais ici, l'expérience est pensée pour les Noirs. Les country clubs à Atlanta n'ont jamais été pensés pour moi. Ils n'avaient pas en tête un homme noir âgé de 30 ans. Et nous n'avons pas de débat honnête sur cette question dans ce pays. Pourtant, cela nous permettrait de parler des choses importantes auxquelles on doit s'atteler maintenant, pour veiller à ce que tout le monde soit inclus. Je pense que les corporations sont comme des fêtes. Les fêtes ont des DJ. Les DJ jouent pour le public. Les corporations sont des fêtes et jouent une musique bien spécifique. Tu peux inviter deux ou trois personnes qui sont différentes à une fête parce qu'elles ne seront pas en mesure de changer la musique. Mais si tu invites trop de personnes différentes à rejoindre l'organisation, alors ce groupe va exiger que la fête change et que l'on écoute une nouvelle musique. Ce dont on ne parle pas, c'est que les organisations veulent que ce soit toujours la même fête, celle qu'elles donnent depuis très longtemps. Elles vont faire des exceptions pour laisser rentrer quelques autres personnes, à condition que ces personnes s'assimilent et acceptent la musique jouée à la fête.
Tell us what is the favorite track you like to listen to at a party.
I'm a big Jay-Z fan, so he has a new song called Entrepreneur.
Je me suis promené en voiture avec King Williams dans l'ouest d'Atlanta, où la circulation est souvent ralentie à cause des travaux. King Williams est un cinéaste, il a fait ses armes en tant que stagiaire chez Spike Lee. Il s'intéresse à la gentrification à Atlanta et au phénomène du « reverse white flight », le retour des Blancs dans la ville après les exodes massifs des années 60 aux années 90.
Now when you were driving with me, you saw like all the new development that's coming. You got to see like they're improving the...
Là, en voiture avec moi, tout à l'heure, tu as vu tous les chantiers. Ils refont les routes, les égouts. Atlanta n'a pas été bâti pour la population actuelle. On est 25 fois plus nombreux que ce qu'ils avaient projeté en 1950. Et là, ils bâtissent pour les nouveaux habitants à Atlanta. Cette nouvelle population sera plus riche, plus blanche, avec des comportements typiques, des résidentiels suburbains. Il leur faut plus d'eau, car ils vont vouloir des piscines et des grands jardins. C'est pour ça qu'ils construisent un nouveau parc, avec un énorme réservoir pour tous ces nouveaux arrivants. Tout est à saisir en ce moment à Atlanta. Les chantiers de réhabilitation ici dans l'ouest de la ville ne sont pas là pour les résidents actuels qui sont noirs. Tu l'as vu avec moi aujourd'hui. Tous les gens qui habitent côté ouest sont noirs. Mais tu vois cette nouvelle maison-là. Elle n'est pas prévue pour une famille noire. Celle-là, plus bas, non plus. Tous les changements sont pour ceux qui arrivent, pas pour ceux qui sont déjà là.
But it seems that the white people who move in.
Et alors, j'ai l'impression que les Blancs qui s'installent ici sont bien intentionnés, mais ils ne sont pas exempts de reproches, c'est ça.
Some people come in and they are trying to be good neighbors and not try to be gentrifiers or try to be racist about it.
Il y a ceux qui essaient d'être de bons voisins et qui ne sont pas des occupants racistes, mais d'autres se comportent vraiment comme des colons.
One of the things we're seeing a lot on the east side of town, like Kirkwood, like Decatur.
On a souvent vu côté est, à Kirkwood et Decatur, des gens qui, à peine arrivés, se mettent à manquer de respect pour la culture et les habitudes des gens sur place. La plupart des nouveaux sont blancs et ils appellent souvent la police car ils ont peur des Noirs qui habitent là. Donc ils ne respectent pas ce qu'il y avait avant. Et ici, tu vois des gens assis sur leur porche, des gamins qui traînent dans la rue. Bon, ils devraient sans doute être à l'école, mais ils ne gênent personne. Et quand cette vague de gentrification arrivera, tu verras beaucoup plus de policiers en patrouille, plus de caméras aux sonnettes d'entrée, beaucoup plus de choses pour la sécurité, car ils ne sont pas très à l'aise avec le voisinage. Atlanta est majoritairement noir depuis 50 ans. Et si tu t'installes dans un quartier à Atlanta même, ce sera un quartier noir. Il y a peu de quartiers blancs. Donc mon conseil, c'est d'être un bon voisin. Nourris-toi des gens, comprends les coutumes sociales, et comprends que les gens d'Atlanta sont OK. Ils sont gentils, sympas. Donc ne viens pas avec ta culture, qui consiste à trouver tout offensant ou effrayant. Ici, on n'a rien à voir avec la culture suburbaine, urbaine, où les gens restent tout le temps dans leur maison et organisent un barbecue qui sera annoncé longtemps à l'avance. C'est pas ça ici. Les gens sortent et discutent tard, ce n'est pas le même rythme, pas la même façon de vivre. Il faut aimer la fête, aimer sortir. C'est une façon de vivre qui va à rebours de ce qu'on a vu au cours des 50 dernières années aux États-Unis. C'est l'inverse du mode de vie solitaire et isolé des banlieues résidentielles. C'est encore une ville ici. Et tu vis dans une ville pour une raison. Il y a aussi de nombreuses raisons qui expliquent qu'il y a beaucoup de Noirs ici. La culture qui est ici, elle est ici parce que tu es parti. Tu ne voulais pas rester avec la culture. Garde bien ça en tête.
Dans Fragilité blanche, Robin DiAngelo interpelle en particulier ces progressistes blancs.
I think that white people who move into neighborhoods that
je crois que les Blancs qui s'installent dans des quartiers mixtes en voie de gentrification savent très bien que ces quartiers sont en train d'être gentrifiés et qu'ils ne vont pas rester mixtes. Sinon, ils ne s'y installeraient pas. la plupart des Blancs ne s'installent pas dans des quartiers habités très majoritairement par des Noirs et qui ne sont pas en transition. Ce qui est important, c'est de voir comment l'absence de Noirs est un critère adopté par les Blancs pour déterminer la valeur des emplacements. Plus un endroit devient blanc, et plus il prend de la valeur. Et c'est pour ça que les gens pensent qu'il est raisonnable de s'y installer, parce qu'il va gagner en valeur. C'est un signal important. C'est une manifestation subtile et discrète de la suprématie blanche. Quand je me penche sur les progressistes blancs, ce n'est pas pour minimiser la montée du nationalisme blanc, qui est très préoccupante, et il faut être vigilant. Mais les Noirs au quotidien ne passent pas la journée avec des nationalistes blancs qui sont ouvertement néo-nazis. Au quotidien, ils sont avec des gens comme vous et moi, bien intentionnés, qui se considèrent ouverts. Et moi, je pense que le progressiste blanc est à la source des frustrations quotidiennes et qu'il peut être très défensif. Car pour nous, c'est très important de ne pas être vu comme des racistes.
Because it's very important to our identities to not be seen as racist.
Ce postulat a valu à Robin DiAngelo des torrents de critiques. Des Noirs ont trouvé son attitude condescendante. Des Blancs ont dit qu'il n'allait pas s'excuser d'être né blanc. Mais moi, ça m'a fait réfléchir. Je me souviens d'un goûter quand j'étais petit, dans la petite maison de ma grand-mère, avec Pat, son ancienne femme de ménage noire, et tous ses enfants. Ma grand-mère était heureuse, car ils étaient allés jusqu'à la fin du lycée. Je m'étais dit, mais moi, si je ne vais pas plus loin que le lycée, elle sera déçue. L'un des fils de Pat m'avait prêté son vélo pour tout l'été. Je partais avec plus de chance que lui dans la vie, mais c'est lui qui me prêtait quelque chose. Je me baladais avec sa bicyclette bleue et rouge dans le quartier blanc et cossu de mon grand-père, tout fier, en m'inventant une complicité avec un copain noir que je ne connaissais pas. Will Scruggs, un saxophoniste blanc, voit très bien de quoi je parle. Je suis allé le voir avant de quitter Atlanta. Il habite le quartier mixte de Kirkwood. Will et sa femme Kate ont adopté deux enfants noirs.
I lived for a few years in Alabama and in Tennessee and in North Carolina before I came back here for college.
J'ai habité quelques années en Alabama, au Tennessee et en Caroline du Nord avant de revenir ici à Atlanta pour mes études. Mon père était un prêtre épiscopalien et c'est pour ça qu'on a souvent déménagé. Quand j'étais gosse, mon père changeait souvent d'église, donc on a pas mal bougé. On peut dire que l'église épiscopalienne est la branche américaine de l'église anglicane et elle est majoritairement blanche. Mon père est assez à gauche dans sa théologie, mais à l'église, pendant le service, c'était assez strict, collet monté. Et on lisait ensemble les prières, on priait, on devait s'agenouiller, se relever sans cesse, donc assez strict. Il y avait de l'orgue traditionnel. Donc j'ai grandi dans cet environnement qui est assez différent de là où je suis aujourd'hui. Quand j'étais gamin, on a déménagé d'Atlanta à Troy, en Alabama, quand j'avais, je pense, 2 ou 3 ans. Et au début des années 80, il y avait vraiment la ségrégation là-bas. Mais mon attitude au sujet de la race doit beaucoup à ma mère. L'un de mes premiers souvenirs, c'était un jour où je suis allé me faire couper les cheveux. On était chez un vieux coiffeur avec l'enseigne du tube blanc à rayures bleues et rouges qui tourne sur elle-même. Et donc j'étais en train de me faire couper les cheveux quand 2 garçons noirs sont entrés et se sont installés dans des fauteuils pour attendre leur tour. Et le coiffeur a méticuleusement reposé ses ciseaux, puis il s'est approché des gamins noirs et s'est mis à leur crier dessus. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Le coiffeur a crié, je vous l'ai déjà dit, je ne coupe pas les cheveux des noirs, dégagez. Ma mère s'est mise en colère. Elle m'a fait descendre du fauteuil. On est sorti, elle m'a installé dans la voiture, et je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais elle est retournée dans le salon, et je la voyais à travers la vitre, montrer son index, alors qu'elle réglait son compte au coiffeur. On n'est jamais retourné chez lui après, c'est elle qui m'a coupé les cheveux.
Les enfants de Will, Stevie et Semyon, ont beaucoup de jouets. Ils rentraient juste de vacances à la plage en Floride quand je les ai rencontrés.
Nos fils vont avoir un piece of, you know, have trust from.
Nos fils vont avoir de l'argent sur un compte en banque qu'ont ouvert mes parents. Ma femme et moi avons des propriétés que nous louons et mes enfants vont hériter du patrimoine accumulé par plusieurs générations dans leur famille adoptive.
Mais
ils jouent tous les deux du piano. Et quand ils seront grands, s'ils sont en tournée ou jouent dans des clubs tard le soir et qu'un policier leur demande de se garer, à la fin, le monde les verra comme des Noirs. Ils restent des Noirs. Le fait qu'ils aient grandi dans une famille blanche ne changera rien. Et le monde peut être dangereux pour quelqu'un qui a la peau noire. Aujourd'hui, ce sont de mignons petits garçons. Mais notre deuxième, Stevie, qui a 5 ans, sera sûrement très très grand. Le docteur a dit qu'il ferait sans doute plus d'1m90. Donc on se fait du souci pour lui parce que même s'il n'agit pas de façon agressive, on ne sait pas comment sa conduite sera interprétée. Ça veut dire qu'en cas de contrôle policier, il devra faire 10 fois plus attention que moi qui fais 1m75 et moins de 80 kilos. Donc c'est pour ça qu'on est très inquiet pour lui.
Je m'appelle Dwight Andrews. Je suis un bon ami de Will. Et j'habite ici à Atlanta.
We go back a very long way.
On se connaît depuis très longtemps. C'est comme s'il était mon fils. Il était l'un de mes étudiants à l'université. Et donc, notre amitié a commencé là et nous sommes restés proches toutes ces années.
Dwight Andrews est le mentor musical et spirituel de Will. Dwight est pasteur à la First Congregational Church, fondée par des missionnaires abolitionnistes blancs juste après la guerre de sécession. Et Will est membre de l'église. Il joue du saxophone lors des services et participe aux répétitions avec Dwight, son ancien prof. D'ailleurs, un jour, Dwight a été arrêté par des policiers sur le campus d'Emory. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait là. Il a eu son doctorat à Yale, mais comme il dit, ce n'est pas marqué sur mon front.
La décision de Will et de sa femme Kate d'adopter Stevie et Semyon m'a beaucoup appris. Elle m'a même transformé, moi et notre communauté. Assister à cette expérience de près m'a conduit à admettre un champ des possibles que je n'envisageais pas jusque-là. Donc, je mesure l'importance de leur engagement et de leur choix. Avec tout le racisme qui nous entoure, leur exemple prouve qu'il y a encore des gens guidés par l'espoir.
And will commit to that no matter what it entails. And I find that tremendously encouraging.
Will et Kate tiennent leur engagement, quoi qu'il advienne. Et je trouve ça très encourageant. Je dirais même que Will est mon antidote à toute cette incitation à la haine. Je veux dire, il est presque impossible de se faire une idée du niveau de colère que l'on peut lire dans le regard de certains Blancs. Ils préféraient vous voir mourir que vous voir réussir. Et donc, Will me donne de l'espoir, alors qu'il y en a peu dans mon champ de vision. Il nous faut vivre avec cette lueur d'espoir parce que Quelle alternative se présente à nous? Et ce que j'espère, alors que nous traversons une période fragile, c'est que les gens commencent à reconnaître l'existence du privilège blanc, ce qu'il veut dire et comment il agit, et qu'ils admettent que le racisme est un problème. Nos défis viennent des gens qui disent que les États-Unis ne sont pas un pays raciste, et c'est absurde. Je suis indigné de voir des gens avaler ça. Et ça fait partie du privilège. Le privilège te permet de dire « ça ne me concerne pas » ou « moi je n'ai rien fait » ou même « ça n'existe pas ». Et c'est un mensonge de dire que l'on peut réussir aux États-Unis si l'on donne tout ce que l'on a, car au contraire, la race détermine qui peut réussir. En revanche, ce qui est précieux avec la période que nous vivons, c'est le parallèle que l'on peut établir avec 1968, avec les émeutes et les manifestations des années 60, devrais-je dire. Les gens ont eu du mépris envers le mouvement des droits civiques au début, car ils pensaient que c'était juste des Noirs qui refusaient de comprendre quelle était leur place. Mais quand ils ont vu les chiens qui attaquaient les écoliers dans le Sud, quand ils ont vu les canons à eau et la violence des policiers à la télé aux nouvelles de 18 heures, cela a changé la dynamique, car ce racisme et cette violence se sont invités dans leur foyer. Et les choses ont basculé à ce moment précis. Ça a été le début de quelque chose qui n'a pas été achevé, mais ça a été le déclic. Et de la même manière, la brutalité actuelle qui finit par nous engourdir avec George Floyd et Jacob Blake et tous ces gens qui ont été tués ou brutalisés devant nos yeux, je pense qu'elle a le potentiel d'un moment de bascule.
George Floyd and Jacob Blake and all of the other people who've been murdered in front of our very eyes. I think it's another kind of potentially transformative moment. It will not convince.
Cela ne fera pas changer d'avis les personnes qui seront guidées par leur propre peur au lieu de reconnaître leur privilège. Ce moment revêt néanmoins ce potentiel.
Great, thanks a lot. Let's go listen to music. You have musicians, singers. Yeah,
they're rehearsing in the sanctuary. We can go in the balcony, and if you want to just hear what they're doing, we can, you know, we can check them out.
But I had to show them the church.
Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine pour la série documentaire. Merci à Darby et Greg Peterson. Documentation, Annelise Signoret. Doublage, Kiddy Bébé, Romain Debec de Lièvre, Amaury Chardot, Antoine Beauchamp, Régis Royer, Anne de Peufelou, Raphaël Kraft, Elena Brokolich et Mexianou Medenou. Prise de son et mixage, Marie Lepeintre, Valérie Lavalard, Cédric Chatelus et Élise Le. Coordination, Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervran.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Emory University, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Yvonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et pour se parler, Twitter et Instagram. Demain, troisième épisode, Free. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière, et les pieds sur terre, et toute la semaine sur France Culture est américaine.